Donc, coalition des forces à la fois conservatrices et des communistes contre Perón, hein, pas encore le gouvernement, non pas de Perón, mais le gouvernement péroniste, on va dire, hein, dont il est l'élément important, fût-ce un peu officieux, on va dire. Donc, août-septembre, manifestation anti-Perón, 19 septembre 1945, donc on est là, tout après la guerre, hein, chez nous. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu parce que ça fera partie un peu de la légende noire, on va dire, de Perón et de sa femme, quoi. Marche dite de la Constitution et de la Liberté. 600 000 opposants marchent sur Buenos Aires. Et la presse est unanime anti-Perón, contre Perón. Et puis les militaires le lâchent. Il s'était distancié des militaires. Il les a utilisés, si on peut dire, où il a été. C'est un officier qui a constitué ce groupe, ce GOU, mais après, son positionnement est éloigné. Les militaires ont plus tendance vers la dictature, enfin voilà. Et ses idées ne sont pas partagées forcément par ses anciens condisciples, on va dire. Donc les militaires lâchent. Et donc les officiers de Buenos Aires font pression sur Farrell, le président à titre, pour contraindre Perón à la démission. Donc Perón est limogé. Donc l'ex-homme-fort est arrêté le 12 octobre 1945 et emprisonné ou placé en résidence surveillée dans l'île Rio Plata. Voilà. Est-ce la fin de sa carrière? Ce serait sans compter sur Eva, la passionnaria, qui va mobiliser les foules. Elle va faire montre d'un activisme exubérant, on va dire, d'une énergie sans pareille. Donc la nuit, elle couche elle change de lieu pour ne pas être arrêtée. Et le jour, elle arpente Buenos Aires et mobilise. Elle mobilise les foules, dans la banlieue aussi de Buenos Aires. Elle active les dirigeants syndicaux, notamment la CGT, où elle a ses amis. Et donc la CGT va suivre et décréter une grève générale de 24 heures, le 18 octobre 1945. Donc, elle se mobilise 24 heures sur 24, on va dire, et ça porte ses fruits. Le 17 octobre 1945, donc, des cortèges géants, une manifestation géante et inattendue, hein, c'était pas prévu, parcourt Buenos Aires et converge de la banlieue vers le centre-ville. À midi, c'est une marée humaine qui se rassemble sur la Plaza des Maillots devant la Casa Rosado, le palais présidentiel. Et donc, on s'achemine vers le rappel, forcément, de Perón, puisque là, il fait peur, si on peut dire, c'est l'homme fort. Il est en résidence surveillée, mais bon. Alors, ses opposants, donc bien obligés, contraints, vont le rencontrer. Il les reçoit, un peu comme un futur chef de gouvernement, d'ailleurs en pyjama dans sa chambre d'hôpital, car on l'a placé dans un hôpital, voilà, pour. On ne sait pas trop où le mettre. Donc, il reçoit ses adversaires, mais alors. En position de force, comme un président qui reçoit ses futurs ministres, il va constituer son gouvernement. Et donc, il va bientôt revenir à Buenos Aires, comme fils du peuple. Perón est le fils du peuple, et le peuple est pour Perón, voilà, suivant l'expression de l'époque. Et un peu avant minuit, d'ailleurs, c'est une scène, on dirait shakespearienne, j'abuse aussi de l'expression. À la lueur des torches, vers minuit, Perón apparaît au balcon de la Casa Rosada, donc du palais présidentiel. Et c'est l'ovation de la foule. Il est d'honneur le leader. Alors, ça s'écrit L-I-D-E-R, nous on dit leader, je pense qu'en l'expression de. l'Argentine ou espagnole, quoi. Voilà. Donc c'est le leader, et donc c'est un vrai plébiscite populaire. Alors je répète, à la lueur des torches, c'est une scène un peu fantastique. Fait, comme on voit un petit peu les scènes de, allez, alors c'était avant-guerre, les hommages à Hitler à Nuremberg, un peu, voilà. C'est une scène géante. Hein. Bon, donc c'est bientôt l'annonce de son retour comme chef de l'État. Voilà. Et néanmoins, ça ne sera pas une dictature. Il ne va pas prendre le pouvoir comme ça par la force populaire. La procédure sera respectée. Il y a un légalisme. Donc il sera candidat, hein, comme un autre parmi d'autres, à l'élection du 24 février 1946, élection présidentielle. Voilà. Et en l'état, il a déjà la main forte, hein, sur le gouvernement en place, et c'est par le truchement d'un secrétaire d'État Mercante, le secrétaire d'État impulsé, on le sait donc par Perón, publie une circulaire le 20 décembre 1945 par exemple, qui impose un 13e mois de salaire et un salaire minimum garanti. Voilà. Donc c'est un petit peu... chez nous, c'était en 1936, c'est un petit peu un front populaire, si on peut dire, 10 ans après, hein, en 1945-1946 en Argentine. Voilà. Et donc, il y a une résistance quand même des patrons, hein, pour ces mesures sociales, pour les appliquer. Mais après des manifestations, des grèves, acceptation du patronat, les 17 janvier 1946, hein, de ces mesures. Et donc... Eva va épouser Perón, ils se marient, elle deviendra donc la première dame, si on peut dire, mais elle ne sera pas que cela, le 22 octobre 1945. Donc ils sont unis, tout à fait officiellement, et elle se montre très active, comme toujours, on l'a vu, très dynamique. Les élections, malgré une forte pression des USA notamment, et des fonds, hein, américains, par le truchement de l'ambassade américaine en faveur des partis d'opposition au péronisme, eh bien Perón obtient 53% des voix. Alors c'est un raz-de-marée péroniste, un triomphe total. 13 gouverneurs, puisque l'élection des gouverneurs se fait simultanément, sont élus sur 14 sièges, et puis 2/3 des députés sont péronistes, et tous les sénateurs sauf deux, donc raz-de-marée péroniste. Et alors, Eva, qu'on appellera Evita, devient l'âme, quelque sorte, de ce péronisme. On a parlé de chef spirituel, on a parlé de... Voilà. Et donc, elle va se montrer très active, notamment par une fondation, la fondation qui porte son nom. Mais, par exemple, à cette époque, elle fait un voyage européen, en juin 1947. Donc on a les images d'époque, on la voit, c'est une ambassadrice exceptionnelle, on la voit sur les photos des magazines un peu people, comme Paris Match, très élégante, habillée par les grands couturiers, et dans les réceptions officielles, mais elle rencontre aussi, au-delà de ces mondanités, elle rencontre les grands de ce monde et parle politique internationale, donc elle discute. On va dire d'égal à égal avec les chefs d'État de l'époque. Bon, par exemple, elle rencontre en France, elle rencontre Paul Ramadier, le président du Conseil, Georges Bidault. Enfin, elle rencontre aussi le pape Pie XII, hein, à Rome, en audience privée. Voilà. Mais là aussi, au cours de ses voyages, ça c'est un petit peu le côté un peu mystérieux et sombre. Hein. Donc, apparemment, notamment en Suisse. Elle rencontre suivant ses théories, mais qui paraissent plausibles aussi, elle rencontre des représentants de ceux qui aident aux filières d'exfiltration des anciens nazis, parce qu'on est juste en 1947. Et donc, le Vatican aussi a sa filière d'exfiltration des nazis, des anciens nazis, notamment vers l'Argentine. Et apparemment, des fonds très importants seront apportés par ces anciens nazis, hein, déposés dans les banques suisses, et qui seront transférés en Argentine, des fonds colossaux, donc et qui serviront aussi la politique, comme la campagne électorale de Perón, apparemment. Et donc, elle prendrait un peu livraison de ces fonds quoi, en Suisse. Et elle rencontrerait ses responsables de filière, enfin, en Suisse notamment, donc je l'ai dit, et ses anciens nazis. Voilà. Et on sait par exemple qu'Eichmann aussi a été exfiltré, mais plus tard, en 1950, là par le biais du réseau du Vatican, de Mgr Ucal, hein, je crois, Udall, qui s'occupait de ces réseaux pour les Polonais, pour les nazis polonais, allemands, etc., ou hongrois. Donc, cet accueil des nazis a été très facilité par le péronisme, et le couple Péron a probablement profité de fonds hein, importants, hein, voilà, y compris à titre privé. Bon. Ça, c'est la zone d'ombre, mais bon, c'est pas très étayé encore. Enfin, ça n'est pas la grande histoire, mais c'est l'histoire en coulisses, probablement. Et donc, Perron, là, on revient à la lumière, si on peut dire, il nomme Eva secrétaire d'État au travail. Alors là, elle s'y montre très dynamique. Elle a l'appui, notamment de la CGT, ce syndicat qui est aussi une espèce de parti politique. Et elle y place ses fidèles à la tête, dans le secrétaire général de la CGT. Donc, et le président de la Chambre des députés est aussi son proche, son ami. Donc, Perron a la pertinence de la nommer secrétaire d'État au travail. Elle n'est pas qu'une première dame faite pour les mondanités, et elle y exprime toute son énergie, son dynamisme. Elle est aussi ministre de fait de la propagande. Mais il n'y a pas que l'apparence, il n'y a pas que la publicité aujourd'hui. Il y a des actes concrets qui sont posés, très importants, hein, en matière sociale. Par exemple, la fondation Eva Perron, alors qui est très importante, et qui comporte un budget, alors je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, des 50 millions de dollars, je ne sais plus, et 14 000 personnes, alors qui crée des... Elle fonde des cliniques, elle fonde des écoles, il y a des bourses pour l'étude pour les enfants, des colonies de vacances, en fait. Il y a un mouvement social, mais alors très important. Et puis, le féminisme aussi, très actif. Elle fonde un parti péroniste féminin autonome. Les femmes sont en Amérique latine et dans le contexte de l'époque très soumise, hein, bien sûr. Elle défend les droits et obtient des droits pour les femmes en matière patrimoniale, donc vers l'égalité. Et les femmes en Argentine auront le droit de vote en 1949. Donc 1951, après 49 d'ailleurs, il y aura une chute un petit peu parce qu'il y aura des problèmes économiques. Il faut soutenir cette politique sociale. Hein. Très, 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 très importante et très coûteuse. Hein. Et puis alors, toujours dans la doctrine péroniste qui est mise en application, l'État est très important aussi. Donc c'est un État très directif, on dirait peut-être colbertiste, jacobiniste, enfin, tout part du palais présidentiel, hein, la Casa Rosada. Et donc, ça coûte très cher. Hein, y a une chute ensuite des exportations. Enfin, il y a des problèmes économiques dans le cadre international. Et cette politique est bien difficile à soutenir. Alors, il y aura des problèmes ensuite, inflation, chômage. Hein, voilà. Et donc, néanmoins, les élections de 51 constitueront toujours un succès pour le péronisme. Hein. Il sera confirmé dans son. Malgré un petit peu la descente. Hein. Mais il va rester. Aux affaires puissants et surtout peut-être avec la popularité d'Eva Perron. Voilà. Et donc, on aura à cette époque une nouvelle classe politique qui va se monter en puissance. Voilà. Et notamment, eh bien, les petits bourgeois, la petite bourgeoisie, les ouvriers voilà, vont s'affirmer. Il y aura un renouvellement. Et puis la puissance de la CGT, ce syndicat, qui est aussi un parti, on va dire, qui est le pilier du régime. Et ce sera quand même une sorte de dictature. Ce sera une dictature avec, je veux dire, un centralisme très important de tous les pouvoirs. Et donc, succès total jusqu'en 1949. Mais après, ces succès aux élections de 1951 sont un peu un trompe-l'œil. Alors, par exemple, il y a ces nationalisations qui ne sont pas forcément une bonne opération du point de vue économique. Et puis, le plan quinquennal qui veut régir l'économie. Hein. Mais c'est du dirigisme. Donc, mais ça ne porte plus ses fruits. Et puis cette politique intense, encore une fois, mais très coûteuse, hein, qui est mise en œuvre par Miranda, le ministre des Finances. Donc ça va conduire à un endettement, et puis à une inflation, et puis il y aura le chômage, voilà. Et néanmoins, les conditions de travail sont améliorées, toujours sous cette impulsion du secrétaire d'État au travail qui est Eva, et que ses partisans, les Descamidos, s'appellent Evita. Et bien, il y a donc les congés payés sont instaurés, les horaires de travail sont réduits. Voilà, c'est une espèce de paternalisme d'État aussi, avoir les cliniques, les maternités, les orphelinats, les salaires augmentent, mais conséquence inflation. Donc post-49, c'est la chute économique, et en 1951, malgré les résultats des élections, eh bien c'est le régime de Perón vacille. Alors, je n'y reviens pas, l'inflation, les mouvements sociaux, parce qu'il y a des mouvements sociaux, et puis il sera amené à réprimer, hein, voilà. Et donc, 11 novembre 1951, c'est un peu le champ du cygne, eh bien, malgré les difficultés, 65% des voix vont à Perón, et on propose le poste de vice-présidente à Evita. Mais après l'avoir accepté, elle a déjà la maladie. Dès septembre, les symptômes de sa maladie sont apparus, elle est affaiblie. Dans un premier temps, elle accepte, mais avec réticence. Et puis bientôt, brève réflexion, elle renonce. Hein. Elle renonce d'ailleurs sous la pression aussi des militaires qui sont contre. C'est quand même aussi un pays un peu machiste, on va dire. Donc le temps n'est pas venu. Hein. Et donc, elle renonce par souci, on va dire, de cohérence politique, en quelque sorte, pour ne pas nuire. Donc, on appelle, d'ailleurs, dans l'histoire argentine, le 31 août 1951, le jour du renoncement, entre guillemets, voilà, où elle renonce à ce poste de vice-présidente. Et dans la constitution argentine, eh bien, c'est comme aux USA, ce régime présidentiel, le vice-président, en cas de décès du président, prend la suite et finit le mandat. Hein. Et bientôt, on a dit les premières atteintes de son mal, et ça sera bientôt la fin, la mort d'Evita. Elle va rentrer dans la légende. Nous y revenons après la pause musicale.